Bonsoir Delphine de Vigan.
Bonsoir Sylvie.
Nous sommes avec vous pour parler de Romane Monnier, avec ce livre « Je suis Romane Monnier » qui est sorti aux éditions Gallimard, sans surprise. Et ma première question est la suivante. Est-ce que les nouvelles technologies augmentent notre nostalgie, selon vous ?
Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si elle l'augmente. En tout cas, clairement, elle la suscite. Elle la sollicite, je dirais même, parce qu'il me semble qu'assez fréquemment sur les réseaux, on voit défiler un certain nombre de petites pastilles, de petites madeleines. D'ailleurs, il me semble même que c'est le nom d'un programme qui est proposé par l'INA. De même que sur nos téléphones, sur notre smartphone, très régulièrement, enfin, j'imagine, peut-être ça dépend des marques, mais en tout cas pour les gens qui ont un iPhone, très souvent le téléphone vous propose, sans que vous ne lui ayez spécialement demandé quelque chose, des montages de photos, enfin, des petits diaporamas, comme on disait autrefois. Un tel au fil des ans, Noël 1999, etc. Donc effectivement, nous incitant probablement à une forme de nostalgie.
Et par là même, un peu à quelque chose de dépressif dans notre vie. Je me suis fait la réflexion parce que depuis que j'ai lu votre livre, j'ai regardé mon téléphone tout à fait différemment, pour ne rien vous cacher, évidemment. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, si je l'oublie un peu, il me sonne, il me rappelle à l'ordre. Ah bah oui. Il me dit, regarde un peu, t'as vu, en 1992, t'avais pas cette tête-là. Et je me suis dit, mais c'est complètement...
C'est clairement un des moyens de capter votre, un des moyens parmi d'autres, hein, parce que le téléphone vous dit aussi que votre nombre de pas a diminué, que votre temps d'écran a augmenté, a diminué. Donc, il vous délivre un certain nombre d'informations, parmi lesquelles, en effet, ces incitations à la nostalgie. Probablement que ça peut être désactivé, mais en tout cas, dans la manière dont il est programmé par défaut, un certain nombre de choses vous sont proposées, si ce n'est imposées par votre téléphone, vous incitant sans cesse à y revenir.
Parce que votre livre parle de beaucoup de choses, mais aussi de la mémoire.
Oui, voilà. Oui, et de la nostalgie aussi, c'est vrai.
Oui, et il parle de ce que nous faisons de notre mémoire. À savoir que donc, dans votre livre, il y a ce personnage qui s'appelle Thomas, puisque c'est lui qui va quand même être le personnage avec lequel on passe le plus de temps dans votre histoire, et donc il récupère ce téléphone de Romane Monnier, et on n'en dira pas plus. Du coup, il va s'interroger sur qui est cette personne à travers son téléphone. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'à la fois, vous nous poussez à nous interroger sur ce que nous laissons comme trace dans notre téléphone, mais aussi qui nous sommes comme trace nous-mêmes de notre famille. C'est-à-dire de ce que nous avons récupéré de nos parents, de nos grands-parents. Est-ce que nous sommes des traces vivantes, finalement? C'est aussi une des questions que vous vous posez.
Ben, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous éprouvons quand même souvent le besoin de garder traces des gens que nous aimons, des gens qui ont disparu, de nos amours passés, y compris d'ailleurs de nos chagrins d'amour, éventuellement. Alors moi, je suis romancière, donc peut-être que j'ai une propension un peu supérieure à la moyenne à garder traces, mais malgré tout, j'imagine, enfin, je vois autour de moi, beaucoup de gens ont une boîte à chaussures dans laquelle il y a telle petite, une collection de photos, un petit paquet de lettres, etc. Des choses que nous avons conservées, oui, avec l'idée que nous aurons plaisir à les retrouver, à nous y plonger, etc. Des journaux intimes, pour ma part, ça, je peux aussi garder des post-it, des petits messages, des mots, etc. Toutes ces choses qui, pendant longtemps, effectivement, étaient sous format papier, en tout cas sous format matériel, et qui aujourd'hui sont devenues immatérielles avec le téléphone. Et en tout cas, moi, j'appartiens à une génération où j'ai connu ces deux époques. C'est-à-dire que j'ai en effet ces traces du passé que j'ai éprouvé le besoin de garder et que d'une certaine manière, j'ai trié au gré de divers déménagements. Je me suis dit, ça, je garde, ça, je le jette, ça, c'est pas la peine de conserver ça, etc. Et j'ai un smartphone depuis 2010, je crois. Et en fait, depuis 2010, la plupart des traces qui concernent ma vie intime, ma vie relationnelle avec les autres, mes amitiés, mes amours, évidemment mes enfants, tout ça, beaucoup, presque l'essentiel, je dirais, est contenu dans ce téléphone. Donc c'est un changement très important, me semble-t-il, de paradigme d'époque. Ouais.
Mais dans votre livre, vous nous interrogez sur ces petites choses matérielles et en même temps sur ce que nous portons en nous-mêmes d'intergénérationnel, c'est-à-dire de l'histoire de nos parents, sans qu'on s'en rende compte. Il y a aussi cette trace-là.
Oui, alors c'est vrai que les traces, c'est vraiment une des questions qui me semblait au cœur du roman. En tout cas, probablement, assez vite, je me suis dit, parce que c'est toujours un peu mystérieux quand on écrit, j'aime pas forcément d'ailleurs l'idée de sujet, qu'un livre a un sujet ou plusieurs sujets. Souvent, les thèmes du roman, je les découvre à mesure que j'avance, soit dans la recherche qui précède, soit dans l'écriture elle-même. Mais je dois dire qu'assez rapidement, je me suis dit, oui, en gros, je vais parler des traces. D'ailleurs, je l'ai dit dans certaines interviews, j'aurais aimé que le roman s'appelle « Les traces ». Et c'était à la fois cette question des traces que je viens d'évoquer, et derrière cette question des traces immatérielles, intangibles, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de ces traces numériques quand quelqu'un disparaît ou quand quelqu'un meurt. Mais bien sûr, la question aussi des traces, comme vous le disiez, que nous portons en nous. Et là, là aussi, je pense que ça nous concerne tous. Ce sont nos blessures, nos propres blessures, bien sûr, celles que nous avons héritées des générations qui nous ont précédées. Tout ce transgénérationnel dont on sait aujourd'hui qu'il est actif dans notre psyché et dans ce que nous transmettons. Et ça m'intéressait que le roman explore ça, notamment à travers ce personnage de Thomas qui s'interroge beaucoup sur la manière dont il a transmis ou pas finalement ses propres blessures, ses propres traumas. Ouais.
Mais alors, est-ce que c'est un livre sur le choix? Je me suis posé la question en vous lisant, parce qu'il est question de beaucoup de choix dans ce livre. Est-ce qu'on garde certaines choses, ou est-ce qu'on garde la même vie qu'avant? Est-ce qu'on lutte même quand on ne trouve pas de sens à sa vie? Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on s'en va? Est-ce que c'est un livre dans lequel vous nous interrogez sur finalement peut-être des choix que nous exécutons tous les jours sans même s'en rendre compte, sans même nous en rendre compte?
Oui, en tout cas, j'aime bien l'idée que le roman nous tend un peu un miroir sur nos propres usages, et sur tous ces choix, en effet, que nous faisons, parfois d'ailleurs un peu malgré nous, en utilisant ces téléphones. D'ailleurs, c'est assez frappant. J'ai interrogé un peu autour de moi les gens, évidemment, en amont de l'écriture et pendant l'écriture elle-même, sur leur utilisation de leur téléphone portable. Et en fait, il n'y en a pas deux semblables. Bien sûr que notre téléphone est aussi le reflet de ces choix, ce qu'on lui confie, ce qu'on lui confie pas. Comment on entre en relation ou pas avec les autres à travers cet objet. Est-ce qu'on s'expose sur les réseaux ou pas? Combien de temps on y passe, etc. Tout ça, il y a probablement une question de choix. Et puis, il y a une part aussi qui nous échappe, parce que ça rejoint à ce qu'on disait à l'instant, parce que aussi le téléphone nous appelle, nous incite à dépendre de plus en plus de lui.
Il y a quelque chose du journal intime, d'une autre façon, dans le téléphone portable. Vous avez quel rapport au journal intime, vous?
Il me semble que le téléphone nous sert beaucoup de pense-bête aussi, plus peut-être que de journal intime, même si beaucoup parmi les jeunes gens avec lesquels j'ai pu discuter, et notamment d'ailleurs récemment en accompagnant le roman, utilisent vraiment le téléphone pour des notes très intimes dans l'application de notes, ce qui ressemble en effet au journal intime qu'on écrivait dans un petit cahier. Mais aussi, me semble-t-il, enfin, moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'ai tendance à retourner. Alors, personnellement, j'écris pas sur le téléphone, j'écris pas un journal sur le téléphone. J'ai longtemps écrit un journal intime sur des petits cahiers que j'ai gardé. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc ça, j'ai une trentaine de cahiers qui sont enfermés dans une caisse avec des indications au cas où il m'arriverait quelque chose, parce que je serais absolument horrifiée à l'idée que ces textes soient publiés sous une forme ou sous une autre, et ils n'étaient pas du tout destinés à être lus. Et puis maintenant, non, j'ai plutôt tendance à prendre des notes sur des carnets. Je continue à avoir le besoin, à avoir besoin du papier quand je note des idées ou des phrases qui peuvent me venir comme ça à un moment ou à un autre. En revanche, je me rends compte que le téléphone, quand je parle de pense-bête, c'est-à-dire que si je ne me souviens plus, si je suis allée à tel ou tel endroit, il n'y a pas longtemps, par exemple, je suis arrivée dans une ville, j'étais persuadée que je n'y étais jamais allée. Et donc, j'ai dit à la personne qui m'accompagnait de chez Gallimard, non, je ne suis jamais venue, j'allais pour une rencontre en librairie. Et puis, en arrivant dans cette ville, je me dis, bah si, en fait, ça m'est vraiment, il y a un truc qui m'est familier, etc. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé dans mon téléphone, j'ai tapé le nom de la ville dans la photothèque. J'ai vu en effet que j'avais des photos de cette place sur laquelle, qui m'avait frappée par sa beauté. Donc, j'avais des photos de la place. Et ensuite, j'ai cherché sur Internet, j'ai tapé mon nom avec le nom de la ville et j'ai retrouvé pourquoi j'y étais. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. Ah, mais oui, bien sûr, c'était à telle occasion, etc. Donc, je me suis dit, en fait, le téléphone, il nous sert aussi un peu de prothèse mémorielle.
Oui. Mais est-ce que ça vous amuse, ça vous fait un peu peur, ça vous, dans quel état ça vous met ça?
Bah, globalement un peu les deux. En réalité, si vous voulez, mon téléphone, je l'utilise comme tout le monde. J'ai une forme de dépendance à l'égard de mon téléphone qui est indéniable. Il me procure par moments de l'amusement. Par exemple, j'aime beaucoup les humoristes, j'adore regarder des vidéos d'humour sur mon téléphone, des choses comme ça. Et puis il y a des moments où je me sens très aliénée, bien que n'étant pas présente en n'ayant pas un compte officiel sur les réseaux sociaux. Et puis il y a plein de moments, oui, où ça m'effraie, bien sûr, où ça me fait peur.
C'est pas la première fois que vous écrivez sur l'addiction, sur celle-ci ou d'autres. Quel rapport vous avez avec l'addiction? Qu'est-ce que ça, en tant que romancière, qu'est-ce que ça nourrit chez vous comme écriture, notre rapport aux addictions en général?
Je ne sais pas, je me le suis jamais formulé comme ça. C'est vrai que, par exemple, j'avais évoqué aussi quelque chose qui était un peu sur un thème approchant dans les Enfants sont rois. Une autre forme d'addiction, c'est l'addiction à l'alcool dans un livre comme Les Loyautés. Au fond, je dirais peut-être ce qui m'intéresse davantage, c'est nos vulnérabilités, c'est la fragilité humaine, c'est la complexité de notre psyché, etc. Mmh. Et donc, si je m'intéresse à ça, forcément, à un moment donné, il est question de nos addictions à différents produits. Voilà, peut-être d'ailleurs parce que moi-même, c'est quelque chose que j'ai connu, une forme d'addiction. Voilà, en tout cas, peut-être que ça me rend un peu sensible à ces questions-là, où il me semble qu'il y a à la fois quelque chose de très intime qui se joue, bien sûr, dans les addictions. D'ailleurs, si on... J'ai jamais envisagé, je suis vraiment en roue libre, parce que j'ai jamais envisagé les choses sous cet angle. Il me semble que ça raconte à la fois quelque chose de très intime de nous. Je faisais allusion, moi par exemple, j'ai connu l'anorexie, qui aujourd'hui est considérée comme une addiction, sans doute à juste titre. Et en même temps, ça raconte toujours quelque chose de l'époque. Les addictions, justement les troubles du comportement alimentaire aujourd'hui qui ont explosé, ça raconte quelque chose de l'époque. Les addictions aux écrans, évidemment, et la souffrance psychique que ces addictions engendrent. Donc peut-être ce qui m'intéresse, c'est toujours ce va-et-vient entre l'intime et le monde qui nous entoure. En tout cas, c'est dans ce va-et-vient que se trouve probablement mon travail de romancière.
Parce qu'on le voit bien à nouveau dans ce livre, et c'est aussi ce qu'on aime, je vous disais tout à l'heure en loge, Delphine de Vigan, on sait bien que vous écrivez une œuvre, parce que vos livres se parlent. Enfin, en tout cas, en lectrice, moi, j'en suis vraiment convaincue. Je trouve que dans ce livre, il y a énormément d'échos à Rien ne s'oppose à la nuit. Mmh. Énormément. Et pas seulement. Vous avez parlé donc d'autres livres, et c'est vraiment le cas. Mais on voit bien que ce qui vous intéresse et ce qui nous touche, nous, les lecteurs, c'est aussi votre capacité à observer le quotidien et à en faire un personnage majeur dans votre écriture. Parce que c'est ça qui, finalement, nourrit le plus votre inspiration d'auteur, d'autrice?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Alors, j'adore hein, l'idée que mes livres se parlent et qu'ils constituent un ensemble. Peut-être que c'est d'ailleurs à partir du moment où j'ai fait moi-même ce constat que j'ai commencé à dire que j'étais écrivaine, par exemple, alors que j'ai mis longtemps à le dire, parce que précisément pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit une œuvre et que tant que je n'ai pas eu la sensation vraiment aiguë que mes livres étaient reliés les uns aux autres et que même s'ils prenaient des formes très différentes, ce qui est le cas, quelque chose de commun les nourrissait, les animait presque, j'ai envie de dire. Donc ça me fait très plaisir. Par ailleurs, oui, bien sûr que c'est tous mes romans se nourrissent quand même de beaucoup d'observations. Je me rends compte que c'est une position dans laquelle je suis. Enfin, et probablement j'étais d'ailleurs avant même d'écrire. Ça m'intéresse d'essayer de mettre en récit. Les gens, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un être humain, comment ça fonctionne entre les gens, toutes ces relations plus ou moins complexes, plus ou moins tourmentées qui nous unissent, tenter d'observer ça, de l'élucider, de le mettre en mots, c'est vraiment une grande partie de ce qui m'occupe dans l'écriture.
Parce que vous trouvez qu'il y a une forme de tendresse dans le quotidien ? Parce que c'est ce qu'on ressent particulièrement dans ce livre.
Ah oui, en tout cas, le quotidien ne me fait pas du tout peur. Et je me souviens d'ailleurs avoir eu des conversations dès mon tout premier roman, Jour sans fin, qui n'était pas, c'était pas avec Karina, mon éditrice actuelle, avec une ancienne éditrice, si je puis dire, justement sur cette mise en scène du quotidien. Pour moi, ça me semblait absolument indispensable de raconter ça. Oui, des choses très très prosaïques d'une certaine manière, très basiques qui font notre vie de tous les jours. Et là aussi, il me semble qu'on peut avoir une manière littéraire de les décrire, de les mettre en écho, de les raconter. Et toujours, je pars de ce principe que le lecteur va s'y retrouver et que cet effet miroir, il peut nous saisir. En tout cas, moi, en tant que lectrice, j'aime bien, quand je lis un roman, me dire « Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement comme ça que je fais, c'est exactement pour ça que je fais ça, c'est exactement ce que je ressens. » Et au fond, c'est ça que je recherche, y compris dans la description, parfois, de gestes très quotidiens. Si je parle de « Je suis Romane Monnier », quand je m'attache à décrire le rituel un peu matinal de ce personnage de Thomas que vous avez évoqué, pour qui, clairement, il y a une espèce d'habitude qui l'aide malgré tout à combattre probablement une forme d'anxiété matinale, en tout cas à se mettre en route, et que tout est assez ritualisé. J'aime bien tenter de décrire ça.
Et non seulement c'est tout à fait ce qui touche hein, vos lecteurs, mais en plus vous faites écho à ça. En plein milieu du livre, il y a une phrase qui dit ça, qui dit quand même, c'est important quand tout d'un coup quelqu'un a les mots pour décrire ce que vous ressentez. Mmh. Et là, bien sûr, vous parlez aussi des livres, des auteurs qui nous accompagnent. Mais donc, vous avez parlé de cette malle, et c'est pas la première fois que vous parlez de cette malle avec vos journaux intimes dedans, mais donc vous avez laissé des consignes parce que ça... En fait, les traces que nous laissons, finalement, vous nous invitez à ne pas les laisser à n'importe qui et n'importe comment.
Exactement.
Alors, quand vous faites des interviews, dans ce que vous dites, est-ce que vous regrettez parfois les traces que vous laissez ?
Ça m'est arrivé. Oui, franchement, ça m'est arrivé. Surtout que parfois, on ne peut pas revenir en arrière.
Oui.
Parfois, il y a des choses que... Moi, j'essaye dans les entretiens... d'être absolument dans le moment présent avec la personne qui m'interroge, d'éviter de dérouler quelque chose qui serait un discours un peu mécanique, etc. Donc c'est quelque, enfin j'accorde de l'importance à ça. Et parfois, cette exigence que je peux avoir vis-à-vis de moi-même, mais c'est aussi l'exigence que j'ai par rapport à quelqu'un que j'écoute à la radio ou que je regarde à la télévision, pour moi, répondre à des questions, bah c'est ça n'est pas rien. Enfin, voilà, c'est pas seulement dérouler un discours promotionnel, etc. Cette exigence là, parfois, elle m'amène à dire des choses que je regrette d'avoir dites. Ou dans le feu d'action, je vais vous donner un exemple plus concret. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai enregistré une série d'entretiens pour À Voix Nue, qui est une émission absolument magnifique sur France Culture que j'adore, que j'écoute très régulièrement. Donc j'étais très heureuse qu'on me propose évidemment d'y participer. Et Corinne Renoud-Nativelle, la journaliste qui est venue m'interviewer, connaît bien mon travail depuis très longtemps. Je sais qu'elle l'apprécie, qu'elle voilà, c'est quelqu'un. Je l'avais vu peut-être une ou deux fois, mais en tout cas, je sentais qu'elle connaissait vraiment l'ensemble de mes livres, etc. Et l'entretien se fait chez soi, si dans la mesure du possible, pour être dans un lieu assez calme, etc., avec un technicien, un réalisateur, et voilà. Et pour moi, avoir accepté cette série qui s'appelle À Voix Nue, ça supposait quelque part une forme de d'exigence, là aussi, d'authenticité. Pendant l'entretien, notamment le premier jour, j'ai été amenée à dire quelque chose qu'ensuite, que j'ai regretté. Et heureusement, c'est enregistré. Et donc, comme la série s'enregistre en plusieurs jours, le lendemain, j'ai dit, est-ce que vous pourriez supprimer ça? Parce qu'en fait, je me suis laissée un peu emporter. C'est quelque chose de trop intime, mm-hmm. que je n'ai pas envie forcément. Et évidemment, enfin, très gentiment, ils ont accepté de le supprimer. Donc voilà, oui, bien sûr que ça peut m'arriver parfois de me sentir embarqué peut-être dans l'idée que parce que j'aime beaucoup parler de mon travail, parce que j'aime bien élaborer quelque chose au moment où on m'interroge. Vous me parlez de l'addiction, je me suis dit tiens, c'est marrant, j'ai jamais envisagé des choses comme ça, et ça m'intéresse. Et souvent c'est dans des questionnements comme ça qu'ils viennent de journalistes, d'étudiants, d'universitaires, de lecteurs, que s'élabore aussi quelque chose, enfin un recul, une distance sur mon propre travail. Et ça m'intéresse.
Et à cet endroit-là, en fait, je vous remercie, ça me permet de faire un pont avec Thomas, ce personnage qui, pour le coup, est très seul et pour le coup, se retrouve aussi en tête-à-tête avec ce téléphone dans une rencontre très singulière, puisque c'est pas vraiment une rencontre, c'est un téléphone, mais en même temps, c'est un téléphone qui appartient à quelqu'un, donc c'est un petit peu de ce quelqu'un. Et je trouve qu'à cet endroit-là, d'ailleurs, il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle « Chagrin d'amour » dans lequel vous revenez sur l'histoire de ce personnage, donc Roman Monnier, qui est un personnage à suspense dans votre livre. Et je trouve que vous nous interrogez aussi sur le rôle du téléphone dans nos liens affectifs, amoureux. Puisque finalement, dans ce livre, on a presque l'impression... Alors, il tombe pas du tout amoureux, il s'agit pas de ça. Non. Mais c'est quand même une relation. Il a quand même une relation... Il a quand même une rencontre avec un téléphone, d'une part. Et puis, on se rencontre, en rentrant dans le personnage de Roman Monnier, que le téléphone fait partie de la rencontre amoureuse, donc qui maintenant est presque une rencontre à trois. Il y a deux personnes qui décident de s'aimer et un téléphone.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah bah là, évidemment... C'est une rencontre entre Thomas et Roman Monnier, vous avez tout à fait raison, parce que la manière dont lui va explorer ce téléphone, voyager à l'intérieur de ce téléphone, les recherches qu'il va y faire, ça raconte quelque chose de lui. C'est-à-dire que se trouver à un moment donné avec disposant des codes face à une telle quantité d'informations, de souvenirs, il faut forcément choisir un peu un mode opératoire. Une fois qu'on a regardé 2-3 fils SMS, dans la mesure où il y passe quand même pas mal de ses soirées, il va effectivement chercher, progresser dans le téléphone, et à sa manière, il va d'ailleurs aller vers le plus intime pour finalement découvrir peut-être quelque chose qu'elle n'aurait pas aimé qu'il découvre. Mais en tout cas, ce chemin-là, c'est son chemin à lui. Et ça raconte quelque chose de ses préoccupations à lui. D'autant plus que ce téléphone va se trouver... Enfin, ce qu'il va découvrir va se trouver faire écho singulièrement à sa propre histoire. Donc, je vous rejoins tout à fait quand vous dites qu'il y a une relation qui s'instaure entre cette absente et Thomas. Et en même temps, bien sûr qu'une des premières choses sur lesquelles il tombe, c'est ce chagrin d'amour, parce que probablement, je pense quand même que notre curiosité, on va dire pour beaucoup d'entre nous, si on se trouvait à disposer des codes d'un téléphone, serait d'aller regarder quelle est la relation, quelles sont les relations éventuellement amoureuses de la personne qui vous a confié cet objet. Et oui, il découvre assez vite, en tapant d'ailleurs dans la barre de recherche le mot « amour », il tombe assez vite sur des SMS qui sont assez anciens, c'est pourquoi il ne les a pas vus dans un premier temps, qui racontent la relation de Romane Monnier avec un garçon, où on se rend compte que le téléphone a joué un rôle, en effet, même si finalement ce chagrin d'amour, il est intemporel, c'est-à-dire croire à une histoire et que tout d'un coup cette histoire s'arrête, c'est arrivé depuis la nuit des temps. Mais l'outil du téléphone permet, dans l'immédiateté, dans le fait de pouvoir bombarder l'autre de signes d'amour, de petits mots, etc., ça offre quelque chose de supplémentaire, me semble-t-il, une dimension supplémentaire dans l'emprise ou dans la toile, entre guillemets, que quelqu'un peut tisser autour de quelqu'un d'autre, puisque c'est ça dont il s'agit. Et d'ailleurs, Thomas apprendra un peu plus tard, toujours grâce au téléphone de Romane Monnier, qu'on appelle ça le love bombing. Cette idée, voilà, d'abreuver l'autre de signes d'affection, de lui dire exactement à il ou elle ce qu'elle veut entendre, ce dont elle a besoin, pour finalement s'évaporer subitement sans aucune raison.
Et alors, à cet endroit-là, je trouve que vous parlez de l'ennui d'une façon très intéressante. C'est-à-dire que ce Thomas, il passe ses soirées sur ton téléphone parce que il s'ennuie un peu. C'est pas tout à fait ça. Il est aussi captivé. Il est aussi tombé amoureux, comme le diraient les Canadiens, tombé en amour plutôt, c'est-à-dire pas tombé amoureux, au sens où nous, on l'entendrait, mais comme une relation passionnante. Parce que, par ailleurs, il est tout seul. Il a élevé sa fille qui n'est plus avec lui. Et donc, je trouve qu'à cet endroit-là, d'ailleurs, il y a une phrase dans votre livre qui dit « Entre ranger ou errer, parfois, la frontière s'estompe ». J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle raconte de nous une sorte de désœuvrement comme ça, qui n'est pas tout à fait la conscience de l'ennui profond, mais qui est cette espèce d'ennui un peu en filigrane qu'on pourrait connaître tous les jours. Est-ce que ce livre et ce personnage, au fur et à mesure des pages, parlent de cet endroit-là un peu comme ça, un peu flou, selon vous?
Oui, oui, en tout cas, il est tout à fait dans un moment comme ça, entre errer et ranger. On appelait ça fourgonner dans ma famille. J'avais raconté ça dans Rien ne s'oppose à la nuit. Ça me fait penser, oui, à ça. On fourgonne, elle fourgonne, tu fourgonnes, etc. Et oui, en tout cas, il est dans un moment où il attend quelque chose. Et là aussi, ça rejoint peut-être c'est ce que le téléphone a produit dans nos vies. Alors bien sûr, là aussi, avant le téléphone, on avait ces moments un peu d'ennui, d'ailleurs d'attente. Mais il me semble que le téléphone a creusé en nous une espèce d'attente autre. Comme si on était un peu toujours sur le qui-vive, un peu toujours sur ses gardes, toujours avec l'idée que quelque chose va se produire, quelque chose qui nous arriverait d'ailleurs par l'intermédiaire du téléphone. Et ce que je peux dire de Thomas, c'est que oui, il est dans ce moment un peu d'entre-deux. C'est pas qu'il soit spécialement déprimé d'ailleurs, mais pas non plus qu'il ne va pas très très bien non plus. Il est dans un moment un peu de désœuvrement, ce qui explique qu'il y passe autant de temps. Et d'ailleurs, à un moment où probablement il se disait, parce qu'il prend conscience d'ailleurs ce matin, puisque c'est là-dessus que s'ouvre le roman, un matin il se réveille, il tend la main pour trouver son téléphone, il ne le trouve pas. Et peu à peu, il prend conscience de sa propre dépendance à son téléphone, à son propre téléphone. Et finalement, il va quitter son téléphone, qui d'ailleurs le lui fait remarquer, pour entrer dans le téléphone de quelqu'un d'autre. Mais oui, peut-être que si c'est arrivé à un autre moment où il était plus occupé, plus préoccupé par d'autres choses, il n'aurait pas suivi, il n'aurait pas tiré ce fil un peu sans fin, d'ailleurs.
Parce qu'entre les lignes, vous parlez aux parents. Et ça, c'est pas la première fois, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, enfin, je trouve qu'il y a vraiment là un écho assez fou quand même dans votre écriture, avec ce livre-là particulièrement. Entre les lignes, vous parlez aux parents. Parce que ce Thomas, qui s'ennuie un tout petit peu, c'est aussi parce que sa fille ne vit plus avec lui. Mais avant ça, vous nous racontez comment il a été papa. Comment il a été papa tout seul. Et là, vous nous bouleversez complètement parce que, bah, évidemment, comme tous les parents, il a passé des caps fous, hein, des caps merveilleux et des caps tragiques. Il a été paumé à ne plus savoir comment s'en sortir. Il a rêvé de liberté en essayant de partir la nuit, sortir. Et puis, il est revenu parce que sa fille est plus importante que tout. Enfin, il a été juste papa, tout simplement. Et là, à cet endroit-là, vous convoquez notre nostalgie de parents, non pas du moment où les enfants sont petits, mais du moment où nous avons été plus jeunes et avalés par le temps des enfants. Et donc votre livre se place juste à cet endroit. On n'est pas complètement déprimé que les enfants soient partis. Limite, on achète une boule à facettes. Mais en même temps, il y a quand même une espèce de face à soi-même qui génère un peu d'incertitude. En fait, entre les lignes, il y a absolument ce moment-là. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous vouliez nous dire aux parents ?
J'ai pas de message. Je suis vraiment encore une fois très heureuse, évidemment, que ça puisse faire écho pour vous. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, il y a une scène du roman à laquelle je tiens beaucoup, qui n'a pas été d'ailleurs si simple à écrire, où Thomas justement passe dans une petite rue près de chez lui et voit des parents qui sont des jeunes parents qui sont attablés dans un café avec les enfants qui jouent à côté, parce que c'est une rue qui a été piétonnisée, donc les enfants peuvent jouer comme ça dans les parages un peu en sécurité. Et tout d'un coup, il est percuté par une bouffée de nostalgie vraiment qui lui coupe le souffle. Et ça le projette évidemment dans l'enfance de sa fille qui est partie. Et il s'interroge lui-même, de quoi est-il si nostalgique ? Est-ce que c'est justement de ces histoires, de ces cafés pris avec les parents à la sortie de l'école, un jour ou un autre, où on parle du pédiatre, de la crèche, de l'école maternelle, de la maîtresse, de la sortie au zoo, de ci, de ça. Est-ce que c'est ça et tout ce qu'on partage finalement avec les autres parents et de la nostalgie simplement de nos enfants petits? Ou est-ce que c'est la nostalgie de lui-même, de lui en jeune adulte, encore plus jeune, plus beau, plus fringant, etc. Et finalement, cette question, peut-être je me la suis posée, probablement je me la suis posée un jour où j'ai été moi-même percutée comme ça par des images, par l'image de parents avec leurs jeunes enfants. Qui est clairement un temps qui me rend parfois très nostalgique. Et évidemment, je suis très heureuse de voir que mes enfants sont des jeunes adultes formidables, etc. Mais de temps en temps, j'aimerais bien qu'on me repropulse juste une heure ou deux dans ce temps-là. Et voilà, peut-être je me suis interrogée moi-même, pardon, est-ce que c'est la nostalgie de l'enfance de mes enfants ? Est-ce que c'est la nostalgie de moi-même dans un autre âge plus flamboyant ? Et au fond, je me pose ces questions et parce que j'ai envie, encore une fois, de réussir à décrire de la manière la plus précise et la plus sensible possible ce que c'est que cette nostalgie, je me dis que peut-être d'autres éprouve ça et tout ce qui concerne d'ailleurs la paternité ou de Thomas, ça a été quelque chose qui était très intéressant pour moi à explorer parce qu'il y avait à la fois la possibilité, bien sûr, et comme c'est souvent le cas dans la fiction, d'y mettre des choses assez intimes, assez personnelles, sans être trop exposé, justement, et en même temps aussi une manière d'explorer des choses qui sont le contraire de moi. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant d'imaginer, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire se retrouver père. Bah, déjà, par définition, moi, je suis une maman. De se retrouver père à 20 ans, 20, 22 ans, d'un enfant qui n'a absolument pas choisi, pas désiré. Il n'avait jamais vu d'ailleurs un enfant de très près. Donc voilà, et essayer d'imaginer comment l'enfant peut être propulsé tel un météorite dans la vie d'un jeune homme de 22 ans, c'est voilà, là aussi c'est assez, c'est un film qui est assez intéressant à dérouler. Presque d'autant plus pour moi qui, au contraire, avait un désir très fort d'enfant qui a précédé beaucoup de choses, qui était vraiment quelque chose de très important quand j'étais jeune fille.
Avez-vous imaginé un seul instant que ce soit Romane, la narratrice, qui soit une mère jeune et seule, et Thomas qui abandonne son téléphone ?
Non. Non, et je serais bien incapable de vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, et c'est d'ailleurs, ça reste toujours assez mystérieux, comment un petit grain de sable, petit à petit, se fait boule de neige et devient un livre. Comment les personnages, les embryons de personnages naissent ou apparaissent. Je ne sais pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que quand je me suis dit, ce serait finalement cette histoire de téléphone, c'est le point de départ assez formidable, me semblait-il, le romanesque, pour faire entrer le romanesque. Ça m'est apparu tout de suite que c'était une jeune femme, en tout cas, parce que... Oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Si déjà, parce que j'avais envie que ce soit une jeune femme de 29 ans, parce que forcément elle a une utilisation de son téléphone portable qui n'est pas la même qu'un homme de 45 ans ou de 47 ans. Et voilà. Et après, pourquoi ce personnage de Thomas est apparu, c'est mystérieux.
Mais il est très tendre, hein, ce Thomas, ce personnage masculin. Tout le monde l'adore.
Moi aussi.
Vous aussi, vous l'aimez?
Ah, je l'adore. Oui, c'est pas toujours le cas. J'ai eu du mal à me séparer de lui. Moi, je le trouve vraiment très très sympa. C'est-à-dire que je le trouve. Je trouve vaillant. Voilà, j'avais envie d'un personnage vaillant. Je sais plus qui m'a dit il y a pas si longtemps. Oui, quand même, il fait le job. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est pas facile. C'est vraiment pas gagné au départ cette histoire. D'ailleurs, cette histoire de paternité. Ouais. Et puis même lui dans la vie, hein, il est un peu cabossé quand même quand il entre dans l'âge adulte. Et finalement, peut-être ce qui le caractérise le plus, c'est cette vaillance. Et donc je l'ai construit comme ça, je l'ai nourri comme ça, avec toujours ça en tête, que oui, par moments il déconne un peu, mais il reste c'est vrai, mais il est là, il fait il ne lâche pas l'affaire, comme on dit, voilà. Et ça, je l'aime bien. Et oui, parfois même les gens me disaient, Thomas, ça va et tout. J'ai dit, oui, ça va.
Ah oui, les gens vous demandent comment va Thomas.
Oui, mais c'est vrai qu'il provoque beaucoup d'attachement.
Ah oui, mais vous faites pas beaucoup de rencontres en hôpitaux psychiatriques, rassurez-moi.
Non, si, ça m'arrive, mais
D'accord.
Pas encore avec le surman.
Je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'échos avec ce livre Rien ne s'oppose à la nuit, et notamment de cette période où finalement Thomas a un peu plus de temps aussi pour, j'ai envie de dire, fréquenter ses fantômes.
Oui, tout à fait.
Il a un peu plus de disponibilité.
Mais disons qu'en tout cas, ce qui apparaît finalement assez rapidement dans cette exploration, moi j'aime bien dire qu'il fait un voyage dans le téléphone plus qu'une enquête. En tout cas, évidemment pas une enquête au sens policier du terme. Il voyage dans le téléphone, et d'ailleurs, d'aucuns m'ont fait remarquer, ce à quoi je n'avais pas pensé à dire vrai dans un premier temps, que je suis Romane Monnier. Bon, ça peut s'entendre évidemment, le verbe être, mais aussi le verbe suivre. Donc, d'une certaine manière, il suit au sens du verbe suivre Romane Monnier, mais très vite, ce qu'il découvre fait écho avec sa propre histoire, d'une manière assez troublante. Il y a des passerelles, il y a des points communs entre leurs histoires. Et donc, au départ, ce qui peut apparaître comme une coïncidence s'avère peut-être pas tant que ça le fruit du hasard. En tout cas, il en arrive à cette conclusion que ça n'est peut-être pas complètement par hasard qu'il se retrouve en possession de ce téléphone. Et je voulais que ça l'amène, oui, à revisiter, à affronter d'une certaine manière ces fantômes. Vous avez raison, c'est-à-dire que il me semble que nous inventons tous, à mesure que nous avançons, des récits qui nous permettent déjà de nous regarder éventuellement dans la glace, de nous raconter aux autres, de raconter notre histoire aux autres. On a besoin de ça, on a besoin de cette mise en récit de notre propre histoire. Et parfois, la vie, éventuellement une thérapie, les rencontres, un téléphone, nous amènent à repenser, à revisiter cette histoire telle qu'on se la raconte. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de travestir les choses, bien sûr, hein, mais il s'agit quelque part de relire, de relier les choses différemment, de relire et de relier les choses différemment. Et c'est ça que le téléphone lui apporte.
Oui, parce que vous le dites, hein, dans le livre, à un moment donné, vous dites, les souvenirs, quand on les visite, quand on les ouvre à nouveau, on les polie un petit peu. Parfois, on change une couleur, parfois, on change un détail. Et alors, c'est frappant, parce que dans ce livre, on le voit bien, le téléphone, lui, il change jamais rien. L'image, elle est telle qu'elle était, elle n'a pas changé. Ça ne peut être que notre regard qui change.
Oui, oui, et parfois, on accepte aussi de voir peut-être quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir, ou d'accepter l'idée que peut-être tel et tel événement sont liés. Moi, c'est quelque chose qui me frappe en vieillissant, de repenser. C'est vrai que là, peut-être, je l'ai fait particulièrement récemment, mais de repenser à des choses de ma propre histoire, de mon enfance, de mon adolescence, etc., et de les relier différemment, et de me dire, mais en fait, ça et ça que je ne pensais pas lier, en réalité, peut-être que c'est lié. Et ça, je trouve ça assez fascinant.
Mais ce livre, il a à nouveau votre écriture qu'on aime tant, qui est à la fois très calme, très observatrice, très délicate, comme ça, où justement, vous n'êtes jamais dans l'intrusion de l'histoire, mais en même temps, on est si proche des personnages. Vous avez ce curseur si intéressant. Est-ce que vous, en écrivant ce livre-là particulièrement, qui semble très calme, alors que, j'ai envie de dire, ça vraiment, il se passe des choses assez incroyables quand même dans l'histoire. C'est pas facile. Thomas, il en bave, il est tout seul avec sa gamine tous les jours. En même temps, on ne va pas trop dévoiler, mais affectivement, il a des sujets, familialement, il a des sujets. Et en même temps, il y a cette Romane Monnier dans un téléphone qui est là, mais en même temps, elle n'est pas là. Donc, il pourrait y avoir de l'effervescence et vous restez calme. Et donc, je voudrais savoir, quand vous écrivez ce livre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes à distance de votre propre histoire pour pouvoir vous nourrir des livres précédents, faire le pont, écrire celle-ci ? Est-ce que vous l'observez de loin ? Est-ce que il y a des moments où vous vous arrêtez d'écrire pour le regarder un peu et savoir ce que vous allez en faire ? Comment vous écrivez, Delphine de Vigan ?
C'est évidemment jamais tout à fait la même histoire d'un livre à l'autre. Peut-être l'écriture de celui-ci a été particulière. Peut-être que c'est d'ailleurs ce qui explique cette sensation cette impression que ça peut donner de calme ou de. En tout cas, c'est un.
Vous avez dit que vous aviez été malade.
Voilà, c'est un texte que j'ai dû abandonner. Je l'ai commencé dans cet élan premier de l'écriture. Quand je me mets au travail, souvent. J'ai déjà eu une période de plusieurs mois où j'ai préparé les choses, où j'ai construit le livre dans ma tête, voire sur un cahier, où j'ai fait différentes recherches, etc. Puis je commence l'écriture et là, j'ai attendu. Donc justement, il y a une espèce d'élan premier comme ça qui est très fort, une forme d'effervescence d'ailleurs. Qui a été interrompu. J'ai dû interrompre en fait deux fois cette écriture. Ce qui a été pour moi assez compliqué, ça créait du doute en réalité. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà observé à d'autres moments. Et j'aime pas d'ailleurs quand j'écris, je n'aime pas m'interrompre. J'aime pas, par exemple, partir en vacances. Alors de temps en temps, il faut bien si le livre s'étale sur une longue période, il faut bien recharger un peu les batteries, partir une semaine. Mais ça me semble toujours un peu coûteux de revenir dans le texte quand je l'ai abandonné, parce que tout d'un coup, il y a une espèce de regard, où je juge moi-même mon travail, où d'insatisfaction, d'exigence non satisfaite, etc., envers mon propre travail. Et ça, c'est compliqué à enjamber. Et là, bah, c'est la vie qui a fait ça. Donc, et ce qui peut-être m'a obligée d'ailleurs d'une certaine manière à me poser, en tout cas, puis de toute façon, physiquement, j'avais pas trop le choix. Ça se sent peut-être dans le texte.
Est-ce que vous avez l'impression, du coup, que ça a été des pauses aussi, parce que finalement, vous avez vous-même observé quelle maman vous avez été, quelle petite fille vous avez été avec vos parents, quelle femme vous avez été avec des disparitions autour de vous. Est-ce que ce livre aussi vous a convoqué à des moments de doute sur la lecture que vous en aviez faite, puisque vous invitez Thomas à réviser son jugement?
Ouais, c'est très intéressant. Probablement, mais j'aurais pas été capable de le formuler comme ça quand je l'écrivais. Peut-être que justement ces temps où j'ai dû m'arrêter et où malgré tout sans doute quelque chose du livre travaille m'ont amené à revisiter un certain nombre de choses. Et puis de toute façon, il y a un moment donné où je pense que je n'ai pas pu ignorer que j'étais en train d'écrire un livre sur les traces, puisque c'est comme ça, peut-être que moi, en tout cas, je me le formulais, et que je m'interrogeais, par la force des choses, j'ai dû m'interroger sur quelles traces, moi, je laisserais si je disparaissais maintenant. Et ça, je n'ai pas voulu l'affronter aussi consciemment que je peux vous le dire aujourd'hui, mais je pense que, oui, probablement, ça a traversé malgré tout ce texte.
Et il y a dans ce livre des écritures différentes, puisqu'il y a des narrations à des moments donnés. Alors vous dites dans le livre, tout se raconte, c'est assez rigolo, au sujet de Thomas qui parle de sa fille, du lien à sa fille, où il dit tout se raconte. Mais en même temps, vous racontez tout aussi, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le téléphone de Romane Monnier. Donc c'est des SMS, c'est des vocaux enregistrés, ce sont des échanges qu'elle enregistre avec ses parents, des rencontres avec sa psy, des comptes rendus, enfin voilà. Tout se raconte. Mm-hmm. Comment vous avez jonglé dans justement ces récits avec des écritures si différentes?
Ça c'est vraiment passionnant pour moi, parce que évidemment un des aspects qui m'intéresse le plus aussi, c'est le langage, c'est comment le langage aussi évolue aujourd'hui avec ces outils, avec ces nouvelles technologies, etc. Donc j'avais envie de faire entrer le téléphone dans un livre, ce qui était évidemment un peu périlleux. Donc par moments je me suis dit, mais il faut absolument qu'il y ait une espèce de reconnaissance immédiate pour le lecteur, ne serait-ce que visuellement, de tomber sur une page et là de tout de suite avoir comprendre dans quelle application la lectrice ou le lecteur est, donc trouver des repères visuels très familiers, etc. Mais aussi, bien sûr, de faire vivre les différents langages que le téléphone abrite. Donc, bien sûr, la langue des SMS, évidemment, qui est beaucoup plus rapide, qui est plus familière, souvent, etc. La langue des mails, qui est encore une autre langue, parce que malgré tout, souvent un peu plus rédigée. Et puis la langue du journal intime, puisqu'à un moment donné, Thomas va tomber sur des fragments que Romane a écrits, qui sont beaucoup plus élaborés, où il y a sans doute un vrai travail d'écriture de sa part. La langue de ChatGPT, etc. Enfin, voilà. Et puis de faire aussi exister une forme d'oralité. Et là, c'était évidemment la faire exister sans être dans quelque chose de complètement mimétique qui serait illisible. Mais malgré tout, de faire exister ces moments où elle s'adresse à ses copines à travers des messages vocaux et qu'on s'y retrouve et qu'on reconnaisse quelque chose de ça, les conversations qu'elle enregistre. Et ça n'est pas la même, on ne s'adresse pas de la même manière à ses parents, à sa psy, à ses copains, etc. Donc tout ça, c'était un travail très passionnant, à dire vrai, et de régler ensuite dans les relectures, d'ajuster, de se poser des questions au moment de la mise en fabrication du livre.
Est-ce que vous voulez dire que du coup il y a quelque chose de très ludique pour vous dans l'écriture, dans ce livre-là en tout cas?
Alors, je peux le dire aujourd'hui, mais là aussi, si vous voulez, quand on se dit qu'on fait des récits a posteriori, aujourd'hui, oui, je dis c'est fascinant, c'est passionnant, c'est ultra ludique, etc. En fait, la vérité, c'est que je me suis arraché les cheveux pendant quelques mois et que si, bien sûr, qu'il y avait quelque chose d'assez ludique malgré tout à imaginer, notamment ces applications, etc. Mais au moment de fabriquer le texte, je suis beaucoup plus dans le doute, je crois, que... même si, heureusement, il peut y avoir des moments, des envolées où je dis oui, ça c'est super. Ah ben là, vraiment. Puis moi, je me relis beaucoup à voix haute, donc relire justement certains échanges de Roman avec son entourage et avoir le sentiment que ça marche, que c'est oui, là, bien sûr, qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu ludique.
Il y a un autre thème qui est vraiment très présent dans votre écriture, on ne peut pas passer à côté. Et j'ai longtemps cherché la façon dont j'allais l'aborder avec vous parce que je ne sais pas quel mot est le plus juste. Alors j'ai choisi absence et je ne sais toujours pas si c'est le bon mot. Mais il y a quelque chose dans votre écriture sur l'absence, les gens qui ne sont plus là ou qui décident de ne plus être là ou qui sont présents mais qui malgré tout ne sont pas là. Enfin, il y a quelque chose. Alors j'ai hésité avec disparition, mais je trouve que ça marche pas vraiment. Mort, ça marche pas du tout parce que parfois oui, parfois non, donc c'est compliqué. Mais quel rapport avez-vous avec l'absence, Delphine de Vigan?
Un peu comme tout à chacun, j'ai envie de vous dire, là maintenant, aussi à l'âge que j'ai autour de moi, des gens ont disparu en réalité. Donc, parfois brutalement, parfois à l'inverse, des disparitions annoncées. Oui, comment on vit avec les absents, ça m'intéresse. Et là, par exemple, dans Je suis Romane Monnier, vous faisiez le parallèle avec Rien ne s'oppose à la nuit. Dans Rien ne s'oppose à la nuit, donc il y a un texte évidemment très très personnel, biographique, autobiographique, où j'ai tenté de retracer la vie de ma mère après son suicide. Il est évidemment question de la brutalité de ce geste, de cette mort, etc. Et là, par la fiction, j'y reviens. Et parce qu'au fond, il me semble que j'ai quelque chose peut-être de plus à en dire. J'essaye de pas en dire trop pour les gens qui n'ont pas lu, mais comment finalement ce personnage de Thomas, plusieurs années après, est encore marqué par l'empreinte de la mort d'un de ses parents, de la découverte brutale du corps, etc. Ça m'intéresse d'explorer ça. Mais c'est oui, bien sûr que mais la disparition, enfin, ou l'absence, il me semble qu'elle fait partie de nos vies quand on avance en âge, et malheureusement, ça ne va pas s'arranger,
oui. Et en même temps, dans vos livres, on le voit bien, vous nous parlez aussi de ces moments où nous sommes absents à notre propre vie,
oui. Alors, ça, c'est autre chose, oui. Où il y a une manière de se soustraire, peut-être, oui. Soi-même, oui. Ça, c'est quelque chose. Alors là, j'ai découvert moi-même que c'était un thème qui traversait mon travail. Je parlais tout à l'heure de parfois ce sont les lecteurs. Parfois, ce sont les gens qui nous interrogent, qui font émerger quelque chose. Et là, en l'occurrence, puisque dans Je suis Romane Monnier, il est question de disparition volontaire. J'ai fait quelques recherches sur la disparition volontaire. Et notamment, parmi ces recherches, je me suis penchée sur un ouvrage de David Le Breton, qui s'appelle donc un sociologue, qui s'appelle Disparaître de soi. Et finalement, dans cet ouvrage, il y a un chapitre effectivement consacré à la disparition volontaire, mais il y a aussi un chapitre consacré à l'anorexie, un chapitre consacré au fait de chercher à disparaître dans le coma éthylique. Il y a un chapitre sur la perte du langage et la maladie, les maladies neurodégénératives que j'avais abordées.
C'est un livre sur Delphine de Vigan.
Non, mais en fait, c'était vraiment très, très incroyable. Je me suis dit, mais oui, ça aussi. Et puis en plus, j'ai un autre projet où il est question aussi d'ailleurs d'une forme de disparition. Qu'il évoque également dans cet ouvrage. Et je me suis dit, c'est fou, parce que jamais j'aurais formulé les choses comme ça, jamais j'aurais dit j'essaye de pas trop analyser non plus les choses comme ça, mais que c'était un thème qui traversait mon travail. Or, de fait, c'en est un.
Et quelle conclusion vous en tirez?
Ça m'interroge. J'en tire pas tellement de conclusions, mais par contre, ça me questionne. C'est-à-dire que je me dis, ah oui, mais justement, est-ce que c'est précisément parce que moi-même, j'ai cherché à un moment donné, en entrant dans l'âge adulte, à disparaître de moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire disparaître de soi-même, d'ailleurs, enfin, en tout cas, à chercher une forme d'effacement, une forme d'anesthésie, d'ailleurs, hein, une manière de se mettre à l'abri. Pour moi, c'est ça aussi, l'anorexie, en tout cas, cet état dans lequel l'anorexie, à un moment donné, nous plonge, enfin, m'a plongé pour ma part. Une forme, oui, il n'y a plus du tout d'émotion, c'est une manière de se protéger de l'extérieur, de se mettre dans un état où le monde ne vous atteint plus, ne vous percute plus. Finalement, je me suis dit, c'est le cas d'ailleurs de ce personnage de Théo dans Les Loyautés, qui à un moment donné cherche à se mettre à l'abri. C'est le cas de Romane Monnier qui, à un moment donné, cherche à se mettre à l'abri. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que moi j'ai éprouvé à un moment donné ce besoin de me protéger aussi du monde et de trouver en tout cas un moyen de l'apprivoiser, parce qu'évidemment, c'est pas une méthode très durable et encore moins recommandable. Est-ce que c'est parce que j'ai vécu ça qu'au fond ça m'a rendu particulièrement sensible à d'autres questions? À d'autres formes de disparition.
Et en même temps, être auteur, c'est aussi s'extraire le temps de l'écriture, c'est aussi se couper.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est à la fois s'extraire et avec l'espoir, malgré tout, de créer du lien. C'est ça qui est d'ailleurs assez étonnant. C'est qu'évidemment, on n'écrit pas seulement pour soi, on écrit avec l'espoir d'être lu. Et non seulement l'espoir d'être lu, mais l'espoir que ça va provoquer quelque chose chez autrui, chez l'autre.
Est-ce que ça perturbe votre écriture au moment où vous écrivez, de vous interroger sur la réception du livre?
J'essaie de le faire le moins possible. Alors, il y a des moments où ça me rattrape, dans le sens où je me dis, évidemment, est-ce que ça, c'est compréhensible? Est-ce que, est-ce qu'on va comprendre, ne serait-ce que ça? C'est probablement d'ailleurs sous cette forme que ça revient le plus souvent. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est... mais sinon, sur la réception vraiment du texte, j'essaye de m'en détacher. Et de toute façon, il me semble que l'écriture part de quelque chose de tellement, au fond, de tellement viscéral, de tellement organique, que, en tout cas, pendant ce temps de l'écriture, les lectrices, les lecteurs ne sont plus là.
Non. Et vous avez cette sensation de disparaître un peu du monde au moment où vous écrivez ?
Oui, en tout cas, de m'absenter sous d'une certaine façon. Pour ma part, l'écriture exige une très grande discipline, donc j'ai ce rendez-vous quotidien avec le texte qui est très important, et par conséquent, ce sont souvent des périodes où je vois moins de gens, où je suis beaucoup plus chez moi par définition, etc. Donc il y a une forme de retrait, mais que j'aime assez d'ailleurs. Il y a une solitude dans l'écriture que j'aime, et souvent j'en ai marre à la fin. Et je suis contente que ça s'arrête. Je suis contente de pouvoir parler du livre et puis de revenir à une vie plus sociale, plus sociable. Au bout d'un moment, j'en ai marre et j'ai envie de rentrer chez moi. Donc ça, c'est plutôt assez bien fait.
Mais alors, vous diriez, pour finir, Delphine de Vigan, que vous êtes finalement un peu plus addict au fait d'écrire ou un peu plus addict au fait d'avoir besoin de vous absenter?
Ah, ça, je ne saurais pas. Il me faudrait quelques heures de de thérapie pour aborder cette question.
Alors, on en restera là pour aujourd'hui. Mais juste un dernier mot quand même sur ce livre en général et sur sa trame. Je parlais d'écriture très calme tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de douceur dans votre écriture, Delphine de Vigan. Est-ce que ça, vous en avez conscience, la douceur avec laquelle vous traitez vos personnages ?
Dans ce livre-là en particulier, oui, peut-être. Enfin, en tout cas, maintenant que je suis amenée à en parler, etc., je me rends compte que peut-être parce que ça a correspondu aussi au moment de l'écriture, à un moment particulier de ma vie, mais que j'avais peut-être envie de les envelopper d'une forme de douceur. Thomas, sa fille,
mais même Romane,
Pauline, même Romane Monnier, oui, c'est vrai, ouais.
Merci beaucoup, Delphine de Vigan.
Merci à vous.